J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 34e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur normand de cœur et rodanien d'adoption Arnaud Delattre, dont les deux derniers romans, Tutoyer l'enfer et Le tripier de Lyon, sont parus respectivement le 23 mai et le 13 novembre 2024 aux éditions des presses littéraires. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous.
Un grand plaisir de vous accueillir. Allez, vous préférez, la première question inévitable, vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
J'ai pas de préférence particulière, mais je dirais peut-être plus romancier, parce qu'un auteur, il peut faire beaucoup de styles différents, et ce qui me caractérise, moi en tout cas, c'est plutôt l'écriture de romans, donc je dirais peut-être plus romancier.
Bien. Alors, quelle place avait l'écriture et la lecture pendant votre enfance et votre adolescence?
Alors, l'écriture, pas du tout. C'est vraiment venu sur le tard. J'ai toujours lu, et j'ai toujours aimé la lecture. Beaucoup de polars, beaucoup de thrillers, beaucoup de romans historiques aussi, ou de sagas historiques, assez éclectiques en fait. Et l'écriture est venue plus tardivement, hein. C'est venu il y a 8 ans, j'ai commencé à me lancer en fait, j'en avais envie depuis longtemps. Et puis, c'est pas le tout d'avoir envie d'écrire, hein. Il faut trouver le temps, il faut trouver le bon moment dans sa vie. Et donc, je me suis lancé en 2018. Voilà.
Alors, vous aviez des autrices, des auteurs de chevet à l'époque déjà?
J'ai lu énormément Stephen King quand j'étais jeune. Ça fait partie des grands maîtres de l'écriture pour moi. Après... par exemple, sur les romans historiques, j'aime bien Ken Follett, qui fait des belles sagas historiques, je trouve aussi. Donc, j'ai pas d'écrivain de cœur particulièrement. J'aime les polars en général et donc les écrivains qui font du polar, par exemple, mais sans forcément de grandes préférences.
Alors, moi, j'ai lu sur le site du Progrès que vous avez des facilités pour l'écriture et surtout beaucoup d'imagination. Vous auriez pu écrire des romans plus tôt?
Alors, j'ai beaucoup d'imagination. Ça, c'est sûr que j'ai beaucoup d'imagination. J'ai plein d'idées en tête. Mais comme je disais, hein, entre avoir des idées d'écriture et se lancer dans l'écriture, il y a un vrai fossé. Donc oui, j'aurais très bien pu attaquer l'écriture avant avec toutes les idées que j'ai en tête. Et même là, en ayant déjà écrit 4 romans, j'ai encore plein d'idées pour des futurs romans.
Alors, votre métier d'ingénieur vous a amené à voyager dans de nombreuses régions françaises ainsi qu'au Canada pendant de nombreuses années. Vous aviez le temps de lire à l'époque?
Oui, j'ai toujours... alors, même si en ce moment, avec l'écriture justement... j'ai du mal à me réserver des petits temps pour lire, mais je le fais quand même. C'est important de continuer à lire. Mais oui, j'arrive quand même au quotidien à lire. Même en étant expatrié au Canada, j'ai continué à lire et je suis même passé à l'anglais, hein, en lecture. Donc voilà, c'était assez différent.
Vous êtes désormais installé dans le Beaujolais, du côté de Fleurieux-sur-l'Arbrelle en particulier?
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, limite Coteaux du Lyonnais et Beaujolais, en fait. C'est la limite sud du Beaujolais et c'est la limite nord des Coteaux du Lyonnais.
Ça reste dans le Rhône.
Ça reste dans le Rhône.
Bon. Après des années de voyage et de déménagement, se poser est propice pour écrire?
Oui. C'est important d'être bien établi, je pense. Il faut quand même avoir, enfin, pour moi en tout cas, hein, il faut avoir une certaine sérénité quand même pour pouvoir... prendre le temps, se poser, réfléchir, organiser sa future écriture, etc. Après, je pense que d'un auteur à l'autre, c'est très variable. Hein. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de chaos et d'un peu de mouvement dans leur vie pour avoir l'imagination et se lancer dans l'écriture. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, oui, j'ai plutôt besoin d'être stable.
Alors, quand vous est venue l'envie d'écrire des romans? Pas d'écrire et des romans en particulier?
Alors... Pour moi, comme je le disais, l'envie d'écrire, elle date d'assez longtemps. Mais quand je songeais à écrire, c'était déjà des romans. J'avais vraiment envie d'écrire des histoires, d'inventer des histoires. Avec l'imagination dont je suis pourvu, ça tombait sous le sens pour moi d'inventer des histoires. Et ce que j'apprécie, en tout cas, ce qui me donne du plaisir... et ce qui, j'espère, donne du plaisir au lecteur, c'est de m'appuyer le plus possible sur la réalité, mais d'inventer des fictions qui s'appuient dans le monde réel, en fait. C'est pour ça que les histoires que j'ai écrites jusqu'à maintenant sont vraiment ancrées dans la réalité, mais sont de vraies fictions, par contre.
Voilà. Et c'était quand, alors ? C'était quand ? Bah, le début de l'aventure d'écriture. Bah,
le début de l'aventure, c'était en 2018. Donc, c'était un moment qui était propice, sûrement, dans ma vie. Et j'avais une idée en tête. J'avais déjà un fil d'histoire en tête. Et je me suis dit, allez, j'essaye. Je prends du temps. Je trouve du temps. Et puis, j'essaye de réfléchir à un scénario sur cette idée d'histoire. J'ai fait des recherches aussi, parce que c'était mon premier roman était plutôt à connotation scientifique, on va dire. Donc j'ai fait pas mal de recherches aussi sur Internet. Et en fait, je passais du temps sur l'ordinateur. Et mes enfants, ma femme se posaient beaucoup de questions à ce moment-là en disant qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi tout ce temps que tu passes sur ton ordinateur ? Et au début, je ne voulais pas forcément avouer que j'allais me lancer dans l'écriture. Donc moi, je disais trop rien, je cherche des choses, voilà. Et puis quand ils ont commencé à voir que sur l'ordinateur, il y avait du texte et que ça commençait à prendre forme, bon, j'ai dû avouer que j'étais en train d'écrire quelque chose, à leur grande surprise. Mais en tout cas, j'ai tenu bon, je suis allé au bout de mon premier manuscrit le virus ne m'a pas lâché.
Alors, pourquoi ne pas l'avoir avoué avant ? L'image d'écrivain ne va pas avec celle de... Que vos proches avaient sur vous, ça fait pas sérieux ?
Non, c'est pas que ça fait pas sérieux, mais en ce qui me concerne, il y a une notion de crédibilité. Du jour au lendemain, se lancer dans l'écriture, on se pose des questions. Est-ce qu'on est crédible ? Est-ce que c'est pas une lubie ? Et est-ce qu'on a pas le talent, mais en tout cas les capacités nécessaires pour arriver à écrire quelque chose qui tient la route ? On se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question, en fait. Moi, je me suis vraiment posé la question de la crédibilité. Donc, n'étant pas sûr d'être crédible sur cette aventure, j'ai eu du mal à avouer que j'étais en train d'écrire quelque chose, clairement.
Il faut mieux se cacher, alors.
Oui, c'était un peu ça, au départ, en tout cas. Mais après, une fois qu'on est un peu satisfait de ce qu'on est en train de faire, et vraiment, quand je suis arrivé au bout du premier manuscrit, je me suis dit, je ne suis pas mécontent. J'ai quand même réussi à sortir quelque chose qui, à mes yeux, tient la route. Et là, j'ai arrêté de me cacher, clairement.
C'était aussi la peur de montrer ?
Non, ce n'est pas la peur de montrer. C'était vraiment la peur de pas être légitime, en fait. Plutôt ça.
Alors, votre famille ne vous en a pas tenu rigueur, ne vous a pas tenu rigueur du secret que vous gardiez, puisqu'elle vous soutient, et votre sœur en particulier. Alors pourquoi votre sœur ?
Pourquoi ma sœur ? Ma sœur est une grande lectrice aussi, et elle est très critique. Et donc, je lui ai soumis tous mes manuscrits jusqu'à maintenant. Et elle a toujours été fidèle au rendez-vous en me faisant... des commentaires, en me donnant des idées d'amélioration du manuscrit, en me faisant des suggestions qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait améliorer mes manuscrits. Donc oui, c'est ma bêta lectrice préférée. Oui.
C'est presque une éditrice.
Alors pas tout à fait quand même, mais...
elle a fait un travail d'éditrice.
Elle a fait un travail d'éditrice, oui, en quelque sorte. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai plaisir entre un frère et une sœur de pouvoir faire ça aussi.
Bon, sans oublier la famille proche, on va dire.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Bon, vexer personne.
Non, on va vexer personne.
Non, pas ce soir.
Tout le monde est supportif.
Voilà. Alors, comment vous organisez-vous pour écrire un roman ? Alors, comment construisez-vous l'histoire et vos personnages ?
Alors, il y a beaucoup de façons de faire. Et je pense qu'il y a différentes méthodes et chaque auteur est libre de faire comme il le sent. Mais personnellement, je suis un scientifique, moi, à la base. Je suis ingénieur, comme vous l'avez dit. Je suis quelqu'un de très structuré dans mon esprit, très organisé. Donc, à cette image-là, mon travail d'écriture est aussi très organisé. Donc moi, je fais partie de ceux qui construisent l'histoire sous forme de scénario, de A à Z, qui savent exactement d'où ils partent, où ils vont arriver, comment va être la chute, et toutes les scènes principales entre ce point A et ce point Z. Une fois que j'ai mon scénario complètement ficelé, comme un scénario de film, hein, finalement, là, je me lance dans l'écriture. Et je suis plutôt fidèlement mon scénario. Alors évidemment, c'est pas interdit de changer des choses, de rajouter des choses, d'avoir un petit peu de liberté. Mais voilà, c'est mon mode de fonctionnement est très structuré.
Vos personnages sont-ils inspirés par vos rencontres? Je pense à la gendarmerie de Larbrel, mais pas seulement.
Alors, forcément, je m'inspire de ce que j'ai vécu, à la fois sur les lieux et aussi sur des traits de caractère de personnages. Mais je n'ai pas créé, je pense, jusque-là, de personnages qui soient le reflet complet de quelqu'un que j'ai rencontré. C'est plutôt un mélange éventuel de plusieurs personnes, de traits de caractère de plusieurs personnes. En tout cas, j'ai appris aussi avec le travail d'écriture à structurer de mieux en mieux la création des personnages. Parce qu'en fait, si on n'approfondit pas chaque personnage, on ne va pas donner suffisamment de relief, je trouve, aux personnages dans le roman. Donc ce travail aussi de création des personnages en parallèle de la création du scénario est très important. Donc je me suis beaucoup inspiré de gens que j'ai rencontrés en termes de, je pense, de traits de caractère de mes personnages.
Alors avant d'être édité aux presses littéraires, 3 livres sont parus en auto-édition.
Oui, hein, exactement.
Hein, donc l'affaire des sphères en 2019, Ensemble là-bas en 2020 et L'âme acérée en 2022, 3 genres bien différents.
Oui, donc le premier, en fait, l'affaire des sphères, c'est donc ce premier roman que j'évoquais, hein, qui est à la fois une intrigue scientifique et politique et qui est plutôt à l'échelle mondiale. Et ensuite, comme j'aime beaucoup les romans historiques en termes de lecture, comme je le disais, j'ai souhaité faire un roman historique. Donc mon second, Ensemble là-bas, est un roman historique qui démarre dans la région de Larbrel, vers où j'habite, début du XVIIe siècle, et qui ensuite, progressivement, va se projeter sur la colonisation de l'Amérique du Nord au début du XVIIe, donc la colonisation du futur Québec. Et là, c'est un petit peu, et forcément, le côté canadien, hein, puisque j'ai eu la chance de vivre au Canada, c'est ce côté-là qui m'a effectivement inspiré, hein, pour la suite de ce roman-là. Et puis est arrivé ensuite le troisième roman, L'âme acérée, qui est mon premier polar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aime lire des romans historiques, j'aime lire des polars. Donc forcément, ce qui m'inspire en termes d'écriture, c'est ce que j'aime lire. Et donc, avec L'âme acérée, j'ai pris beaucoup de plaisir en termes d'écriture. Et puis, c'est à partir de celui-ci que j'ai commencé aussi à faire beaucoup plus de promotion autour de moi, et puis à commencer à faire des salons littéraires dans la région, à commencer à faire des séances dédicaces dans des librairies. J'ai vu que le genre polar fonctionnait bien, que les gens étaient très demandeurs. Et voilà, je me suis après lancé dans un quatrième livre qui était mon deuxième polar. Donc en fait, j'en ai écrit 4. Mais ce qui est assez curieux, c'est que Tutoyer l'enfer, donc, qui est mon quatrième en termes d'écriture, qui est sorti en mai 2024, a été accepté par les presses littéraires, a été édité par les presses littéraires. Et puis, sur la fin de l'année 2024, mon éditeur m'a demandé si j'avais pas un manuscrit planqué dans un tiroir ou un ancien roman auto-édité qu'il pourrait prendre dans sa collection. Et je lui ai soumis le manuscrit de L'âme acérée, qu'il a souhaité reprendre dans sa collection, mais en changeant de nom, en changeant de charte graphique, puis pour coller à sa collection Crimes et Châtiments, en fait.
Alors, le parcours pour chercher un éditeur n'est pas de tout repos.
Oh non.
Vous aviez mis la barre très haut, d'après ce que j'ai entendu ou lu au début. Vous avez été déçu du comportement des soi-disant grandes maisons?
Non, pas déçu. J'ai plutôt été déçu par moi-même. En fait, le manque d'expérience, quand on se lance dans l'écriture et quand on a envie de faire connaître ce qu'on a écrit, quand on démarre, on manque d'expérience, forcément. Et donc, le réflexe basique, c'est d'envoyer le manuscrit aux grandes maisons d'édition qu'on connaît, celles qu'on voit sur la tranche des livres qu'on achète. Malheureusement, il y a très, très peu d'élus qui sont repérés et édités par ces maisons-là. Donc, j'ai absolument aucune rancœur par rapport à ces maisons-là. C'est moi, tout simplement, qui ai mal ciblé dès le départ. Quand on commence, il vaut mieux cibler des petites maisons plus proches des auteurs, des petites maisons régionales qui ont envie de promouvoir des auteurs locaux. Voilà, c'est ça qui est le plus important. En l'occurrence, les presses littéraires ne sont pas une maison d'édition régionale. Hein. Ils diffusent à l'échelle nationale et ils sont basés dans le sud-ouest de la France, vers Perpignan. Mais il se trouve qu'ils aiment beaucoup leur collection Crimes et Châtiments et ils sont sans arrêt... ils sont toujours à la recherche de nouveaux auteurs et de nouveaux polars à éditer. J'ai eu la chance d'arriver, je pense, au bon moment avec un manuscrit qui tenait la route. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
Donc avec les presses littéraires, il a fallu retravailler les romans que vous avez proposés ou pas ?
Alors, il y a forcément des commentaires qui sont faits par l'éditeur. Il y a tout le travail de correction aussi qui est à faire. Donc oui, il y a quand même pas mal de travail pour arriver à un bon manuscrit, mais sachant que tout ce travail-là, je l'avais déjà bien fait en amont, hein, parce que pour moi, c'est hors de question de proposer un manuscrit à un éditeur qui ne soit pas très bien corrigé et qui ne soit pas beaucoup retravaillé. Donc après l'écriture en elle-même, après la phase d'écriture, je passe beaucoup, beaucoup de temps à retravailler le manuscrit pour en faire quelque chose qui me paraît le plus abouti possible.
Puis votre sœur était passée par là aussi.
Et ma sœur est passée par là. Et puis, pour la petite histoire, avec Tutoyer l'Enfer, donc une fois que j'ai eu fini le manuscrit et que j'ai estimé qu'il était présentable, je suis allé voir les gendarmes de l'Arbrelle. J'y suis allé au culot, hein, parce que je ne connais personne à la gendarmerie, mais j'y suis allé avec mon manuscrit dans la main. J'ai sonné à l'entrée de la gendarmerie et ils m'ont laissé rentrer. Et je leur ai dit, voilà, je suis auteur, je vous ai mis en scène dans ce manuscrit, et est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui accepteraient de relire ce manuscrit, de me faire des commentaires ? Et donc, le gendarme à l'accueil, il m'a regardé d'un drôle d'air. C'est qui celui-là ?
Un gendarme à l'accueil.
Mais très gentil. Et il est allé, il m'a dit, bougez pas, je vais aller chercher le major derrière. Il aura sûrement une petite idée pour vous. Et il se trouve que le major... à ce moment-là, qui a pris sa retraite entre-temps, c'est un féru de lecture. Et donc, il m'a dit tout de suite, c'est une démarche sympa, ça peut m'intéresser, vous allez me le laisser, je vais le lire. Et puis, bougez pas, j'ai la gendarme, là, il appelle une de ses collègues, qui est lectrice aussi, tu vas le lire aussi, et tout. Donc, ils sont partis, deux gendarmes, à vouloir lire mon livre. Ils l'ont fait, ils m'ont rappelé 3 semaines, 1 mois après. Ils m'ont fait venir à la gendarmerie. J'ai passé 1 heure avec eux où ils m'ont fait leurs commentaires. J'ai passé un très bon moment. Ils m'ont fait visiter la gendarmerie. Ils m'ont montré la salle de pause que je décrivais dans le livre sans l'avoir vue. Donc j'ai vu la vraie vie de la gendarmerie. Et au moment de partir avec mes précieux commentaires, en demandant de récupérer mon manuscrit, le major, il me dit non, je le garde le manuscrit. La commandante de brigade, elle va le lire aussi. Ah, j'étais tout fier, tout content. Donc, je suis reparti, je suis revenu pour refaire une séance de discussion avec la commandante de brigade, avec le major, et j'ai appris énormément, en fait. Ils m'ont fait à la fois des commentaires sur l'intrigue, sur l'histoire, mais surtout, ils m'ont fait des commentaires techniques sur leur métier. Ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont corrigé des choses. On a beau chercher sur Internet, essayer de comprendre comment fonctionnent les enquêtes, comment fonctionnent les interactions entre la justice et la gendarmerie, on trouve des infos, mais on ne trouve pas tout, et puis on interprète mal. Donc, ils m'ont vraiment aidé. Et surtout, ça a été une expérience, je pense, enrichissante de mon côté, mais aussi du leur. Et ils m'ont dit qu'ils étaient partants pour lire le prochain. Aussi.
Voilà. Alors, dans Tutoyer l'Enfer, il n'y a pas que l'enquête que l'on suit. Il y a aussi une histoire d'amour entre le capitaine Amaury Boisclair et la mère d'une des victimes. Alors, déontologiquement, qu'en ont pensé les gendarmes de l'Arbrelle ? Ça leur est arrivé ?
Alors, ils ne m'ont pas dit si ça leur était arrivé ou pas.
Oui, ils ne vont pas le dire.
Ils ne vont pas le dire. Non, le dire. C'est quelque chose qui ne les a pas choqués du tout. Et ils ne m'ont pas du tout fait de commentaires sur cet aspect-là. Ils m'ont dit clairement qu'ils faisaient la part des choses entre le côté réel de leur métier et le côté romancé d'une histoire. Donc ça, c'est le côté romancé d'une histoire, des relations entre deux personnes qui peuvent se produire, qu'ils soient gendarmes ou qu'ils ne soient pas gendarmes. Et effectivement, ça pose des questions déontologiques, mais ça ne les a pas du tout choqués. Hein, ça fait partie du côté romancé d'une histoire. Tout comme ils m'ont dit, bah, la disparition d'une gamine, l'hélicoptère, il n'arrive pas dans l'heure qui suit. Quoi. Ça, c'est romancé ce que vous expliquez là. Bah, je l'ai laissé comme tel parce que je trouvais que c'était bien. Mais voilà, ils m'ont fait aussi ce type de commentaires sur le côté un peu trop romancé par rapport au côté réaliste. Ouais, ouais.
Donc le premier roman est en fait... Enfin, le premier roman que les éditions des Presseterre ont édité, en fait, c'est votre dernier roman en date.
Oui.
Hein, Tutoyer c'est ça, l'enfer.
Tout à fait.
Comment présentez-vous les deux derniers romans que vous avez fait paraître à vos lectrices et vos lecteurs? Vous leur expliquez forcément. Parce que voilà, comment expliquer que le dernier n'est pas le dernier?
Alors c'est tout simple. Hein, je dis qu'en termes d'écriture, Tutoyer l'enfer est mon dernier. Oui. Mais en termes d'édition, c'est Le Tripier de Lyon qui est sorti en dernier, tout simplement parce que c'est une réédition d'un précédent roman que j'avais auto-édité. Voilà, c'est tout simple et les gens comprennent très bien. Il y a même une personne qui est un collectionneur de livres qui se passe à Lyon qui a acheté les deux. Il a acheté L'âme acérée dans sa version auto-éditée et il a racheté Le Tripier de Lyon dans sa version éditée. Après, on est sur... Et on est sur deux univers différents. Alors, il faut bien que j'explique aussi aux gens que je n'ai pas écrit deux romans en moins d'un an. Hein, c'est pour ça que c'est important d'expliquer ce côté-là. Et je leur explique aussi que ce n'est pas deux romans qui se suivent. Ce n'est pas une collection avec des personnages qu'on retrouve. Et que c'est bien deux univers très différents aussi.
Ouais. Alors, après Tutoyer l'enfer, hein, donc paru le 13 novembre 2024, toujours aux éditions Presseterre, Le Tripier de Lyon. Alors, donc, en fait, c'est la réédition, vous le dites, de votre roman autoproduit L'âme acérée, voilà. Paru en 2022. Alors, qui a décidé du changement du titre? Bon, c'est pas vous.
Non, c'est avec l'éditeur. Ouais. Tout simplement, pour intégrer sa collection Crimes et Châtiments, bah, déjà, le livre doit changer d'aspect. Doit intégrer la charte graphique correspondant à la collection chez l'éditeur. Et puis, ce qu'il m'a expliqué, c'est que pour éviter toute confusion justement avec le précédent livre auto-édité, il était préférable de changer de titre. Ça m'a posé beaucoup de questions. Mais comme le livre, j'avais auto-édité, donc forcément, il avait eu beaucoup moins de diffusion que ce qu'il aurait pu avoir avec un éditeur. Je me suis dit que finalement, ça pourrait donner une seconde vie au texte. Et le sortir finalement sous un nouvel aspect, un nouveau titre, c'était une bonne idée. Donc j'ai adhéré et puis on est parti là-dessus. Bon. J'ai cherché un nouveau titre.
Pour vous, c'est les mêmes?
Pour moi, c'est le même texte, mais effectivement, c'est pas le même objet physique, on va dire. Mais voilà, le texte est le même, il n'a pas du tout changé entre les deux.
Alors le titre, Le Tripier de Lyon, fait penser à la gastronomie lyonnaise et à cette tradition culinaire unique au monde. Lorsqu'une enquête se passe à Lyon, la nourriture n'est jamais loin, même si vos personnages ne fréquentent pas forcément les bouchons lyonnais.
Non, je voulais pas forcément faire dans le gadget touristique ou les clichés. C'est souvent, enfin, mes personnages aiment bien la bonne nourriture et le bon vin. Hein, mais c'est pas forcément, ils mettent pas forcément en valeur le style bouchon lyonnais pour autant. Non.
Alors, pouvez-vous, sans tout dévoiler, nous raconter l'intrigue du Tripier de Lyon?
Oui, alors pour celui-ci, je me suis appuyé sur des véritables affaires de meurtres en série non résolus, hein, qui se sont passées essentiellement sur la fin du XXe siècle. Et j'avais envie de faire ça, de me baser sur des histoires réelles et de construire une fiction à partir de ces histoires réelles. Et donc, l'histoire, ça démarre par la découverte dans les rues de Lyon de cadavres de femmes mutilées, hein, puisque ce sont des membres de corps qui sont retrouvés dans des sacs poubelles. Et il s'avère que ce sont plusieurs corps différents. Et donc, progressivement, que ce soit la police ou les journalistes, ils commencent à se douter qu'il y a peut-être... un tueur en série en face de ça, puisqu'on a plusieurs cadavres. Et puis, c'est un journaliste du quotidien régional célèbre sur Lyon, Le Progrès, qui va faire le lien avec des histoires justement non résolues qui présentent des similitudes avec ce nouveau cas. Et au départ, la police n'adhère pas trop à sa théorie, et donc le journaliste... ne lâche pas le morceau, va creuser et va aller présenter progressivement de plus en plus de données tangibles à la police, ce qui va finir par faire avancer l'enquête et à identifier un meurtrier dont la police va devoir démontrer sa culpabilité.
Donc c'est quand même le journaliste Franck Gayou qui mène l'enquête.
Oui, alors c'est une enquête qui est menée sur deux fronts en fait. La police fait très bien son travail, mais le fait dans les règles de l'art, on va dire. Le journaliste, lui, est très borderline en fait. Il a ses méthodes à lui, c'est un vieux briscard. Et il franchit parfois quelques limites que la police ne pourrait pas franchir. Donc ils enquêtent de façon différente en parallèle en fait. Et finalement... pour se retrouver à la fin sur une enquête qui va se terminer en commun.
Donc le fait que ce soit pas la police, le personnage principal qui mène vraiment l'enquête, vous rangerez le Tripier de Lyon plutôt dans la catégorie polar, thriller ou roman noir ou...
Moi je le mets clairement dans la catégorie polar puisque on est sur une enquête policière. Pour moi, un polar, c'est un roman policier, c'est une enquête policière.
Ouais, même si c'est un journaliste qui l'amène.
Mais on reste dans le contexte, dans le cadre d'une enquête de police, en l'occurrence.
Ouais, même si on déborde un peu. Voilà. Déborde un peu. Donc, le journaliste Franck Gayou travaille dans un grand quotidien régional. Donc, il a un très bon réseau du côté des services d'ordre et entretient d'excellentes relations avec le capitaine de police, donc judiciaire Beneventi. Après la gendarmerie de l'Arbrel, avez-vous rencontré des journalistes du Progrès, vous le citez dans votre roman, pour coller au mieux au métier de reporter?
Alors, non, je ne vais pas forcément tout le temps aller rencontrer les gens que je décris ou les métiers que je décris dans les romans. Mais je me documente beaucoup, en fait. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'aller rencontrer tous les corps de métier. L'avantage, c'est quand on fait de la fiction, on a le droit d'inventer ce qu'on veut aussi. Alors, même si j'aime quand même coller à la réalité, j'aime bien qu'il y ait le réalisme suffisant pour que ça soit crédible. Mais on peut se permettre aussi de dire des choses un petit peu à côté de la réalité ou d'inventer des choses. Donc non, je ne suis pas allé rencontrer de journalistes, ni du Progrès, ni d'ailleurs. Même c'est eux qui sont plutôt venus me rencontrer pour m'interviewer. Et je ne suis pas allé voir la police judiciaire de Lyon, non.
Alors que ce soit dans Tutoyer l'enfer ou dans le Tripier de Lyon, il est question de femmes, que ce soit des adolescentes qui disparaissent ou de corps démembrés. Alors pourquoi vos intrigues sont liées au sexe féminin?
C'est un hasard. C'est un hasard, parce que si on prend le Tripier de Lyon, comme je disais, je me suis appuyé sur des faits divers réels, des affaires non résolues, pour ensuite monter une fiction. Et il se trouve que ces affaires non résolues, c'était des femmes qui étaient assassinées par des tueurs en série. Donc j'ai poursuivi sur cette voie-là. Je ne sais pas s'il y a des statistiques, en tout cas je ne les connais pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup de tueurs en série masculins qui tuent des femmes en général. C'est peut-être une fausse impression, mais en tout cas, c'est celle que j'ai. Donc, c'est un hasard si aujourd'hui, ce sont essentiellement des victimes féminines. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le prochain que je suis en train de finaliser, ce ne seront pas des victimes féminines, justement. Donc, vous voyez, j'ai pas forcément un focus sur les meurtres de femmes.
Alors, il y a plein de rebondissements dans le Tripier de Lyon. C'est facile d'écrire sans se perdre et retomber sur ses pieds?
Alors, comme je vous l'expliquais, je suis quelqu'un de structuré et je fais un scénario, un véritable scénario avant de me lancer dans la phase d'écriture. Donc, pour moi, ça serait possible de me perdre si je n'avais pas ce travail préparatoire et si je n'avais pas le scénario. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains, alors peut-être pas sur du polar quand il y a une intrigue quand même bien spécifique, mais sur d'autres types de littérature, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se lancent directement dans l'écriture au fil de leur inspiration. Moi, j'aurais du mal à faire comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin de suivre mon fil pour justement ne pas me perdre.
Vous n'êtes pas un novice en matière de séances dédicaces puisque vous n'avez pas attendu d'être édité pour rencontrer votre public. Heureusement.
Tout à fait.
Vous êtes à l'aise derrière la table?
Alors maintenant, oui. En fait, beaucoup d'écrivains vous diront que c'est très difficile de parler de soi et de parler de son œuvre, en fait. Parce que il y a un côté intime, il y a un côté très personnel. Et au départ, on a du mal à parler de ce qu'on a réussi à sortir, à écrire. Mais c'est venu assez rapidement. Et puis, maintenant, je dis même que je prends beaucoup de plaisir sur cette partie-là, à rencontrer les gens, à discuter, à avoir les retours positifs ou négatifs des lecteurs. Je prends quasiment maintenant autant de plaisir à écrire qu'à partager mes écrits avec les lecteurs.
Dans le cadre de la 21e édition du Festival international Quai du Polar, vous étiez en rencontre dédicace à l'Atrium de Tassin la demi-lune le samedi 5 avril dernier. Alors même si ce n'est pas une fin en soi, ça fait quoi d'être invité par l'un des plus grands salons du polar au monde quand même?
Alors je précise que je n'étais pas dans le cœur du réacteur de Quai du Polar, j'ai eu la chance de participer grâce à la médiathèque de Tassin la demi-lune à cette rencontre avec des lecteurs. Qui était organisé dans le cadre de Quai du Polar, puisqu'il y a un partenariat entre la ville de Tassin et le festival Quai du Polar. Et j'ai passé un excellent moment. C'était une véritable interview de professionnel, hein, puisque c'est Patricia Drey qui fait la chronique littéraire sur les radios aussi depuis plus d'une vingtaine d'années, qui m'a interviewé, qui avait fait un gros travail de préparation, comme vous l'avez fait d'ailleurs vous-même. Hein. Et c'était un très bon moment. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, c'est vrai que la notoriété du festival Quai du Polar, ça donne aussi c'est une belle image. Quoi. Ah oui. Et j'étais fier de pouvoir partager sur les réseaux sociaux le fait que j'intervenais dans le cadre de Quai du Polar.
Alors bon, j'imagine que Le Tripier de Lyon ne sera pas votre dernier roman. Où en êtes-vous côté écriture?
Donc, côté écriture, j'ai terminé le premier jet du manuscrit de mon prochain, qui sera aussi un polar. Et donc je suis sur la phase de retravail du manuscrit, correction, ajout, retrait de parties. Je le ferai les relire bien entendu à ma bêta lectrice favorite et à d'autres potentiellement autour de moi aussi, hein, ma fille, ma femme potentiellement. Et il y aura ensuite toute la phase encore d'ajustement du manuscrit suite au retour qu'ils pourront me faire. La phase de correction. Avant de le soumettre aux presses littéraires. Et puis, si les presses littéraires sont intéressées, ça sera parfait, ça sera très bien. Ça continuera dans leur collection. Si toutefois mon éditeur actuel n'est pas intéressé, je le soumettrai, bien entendu, à d'autres éditeurs. Mais j'ai plutôt envie de continuer la collaboration avec les presses littéraires aujourd'hui.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces à la région proche. Arnaud, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, je suis en train de lire Madeleine avant l'aube, qui a eu un très gros succès sur l'année 2024 et début 2025. C'est un beau roman, c'est vraiment une très belle histoire. J'avance pas vite parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même du mal à conserver des créneaux de lecture, mais je le fais quand même. Donc voilà, Madeleine avant l'aube, un très très beau roman.
Côté proposition de la quinzaine, salon Cépage Noir oblige, notons je vous propose le polar d'Audrey Brière, oh là, mauvais cœur aux éditions du Seuil, il n'y a pas que cœur qui est mauvais, le thriller d'Antoine Renan, vous connaissez Antoine Renan?
Oui.
Voilà, mais il est de Bourg en plus.
Ah, je savais pas.
Et il est originaire de Bourg. Hein.
Ah, oui, très c'est bien.
Voilà. Donc, La fille de Jonathan Becker aux éditions HarperCollins Noir. Le roman de Frédéric Ernotte, Le malheur des uns aux éditions IFS. Le thriller de Christian Pernoux, Pour nous aux éditions Tornada. Le polar de Sébastien Julien, La seconde lame aux éditions L'Oiseau Noir. Le roman de Vincent Delareux, L'idole aux éditions L'Archipel. Le polar de Nicolas Lebel. Ça vous parle?
Oui.
Ben oui. Lalali aux éditions Le Masque. Le roman de Fabrice Papillon.
Oui.
L'Aliéné aux éditions Point. Le polar de Nicolas Druard, Souffre aux éditions Harper Noir, Collins Noir. Le thriller de Clarence Pitts, Meurt mon ange aux éditions IFS. Le polar de Jacques Maurice.
Bien sûr.
Voilà. Garou Broteau aux éditions André Audemars. Le roman d'Antoine Laurin, La dictée aux éditions Flammarion. Le thriller de Catriona Ward, Un cri dans le désert aux éditions Sonatine. Le livre d'Éric Chouvier, L'épopée d'un supporter des Verts. Et oui, il en reste. Aux éditions Les Joyeux Pendus, effectivement. Il porte bien son nom. Et le roman de Liane Moriarty, Ici et maintenant, aux éditions Albin Michel. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces dans la région proche. Arnaud, avez-vous des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer?
Oui.
Au moins une.
Alors, j'ai au moins celle d'après-demain, samedi. Je serai à la librairie Trait d'Union, à Lyon-Jean Jaurès, toute la journée de samedi. Et ensuite, la prochaine sera le samedi 24 mai. Je serai au salon de Lyon-Montchat. Et puis, pour terminer, mi-juin, le 14 juin, je serai à la librairie des Canuts à la Croix-Rousse.
Et ben pour nous, n'oublions pas le traditionnel salon du polar Cépage Noir qui aura lieu samedi 19 avril du côté du domaine Luquet à Fuissé en Saône-et-Loire, ben avec Nicolas Lebel par exemple, Vincent Delarue, Nicolas Durache, enfin, tous ceux que j'ai annoncés, même Jacques Maurice, c'est une belle surprise, sans oublier l'original de l'étape, Antoine Renan.
Très bien.
Voilà.
Un beau festival.
Un beau festival. Vous connaissez le Cépage Noir ?
Je connais de nom. Oui.
Voilà.
Je
n'y
suis pas allé, non.
Ah, c'est formidable. En plus, on y boit bien.
Oui, c'est sûr.
Domaine Fuissé.
Oui.
C'est le Mâconnais, hein, c'est pas le Beaujolais. Hein.
Non, c'est très bien aussi.
C'est très bien aussi, voilà. Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Avec un grand plaisir, merci beaucoup.
Plaisir partagé. Rappelons que votre dernier roman, Le Tripier de Lyon, est paru le 13 novembre 2024 aux éditions des Presses littéraires. On peut se procurer où, sans oublier tous vos autres romans, dont Tutoyer l'Enfer.
Alors, les deux romans publiés aux Presses littéraires se trouvent partout, hein, dans toutes les librairies physiques ou en ligne, il n'y a pas de souci.
Bien. On peut suivre votre actualité sur Internet via votre site Internet.
Oui, et hein, puis et sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram.
Voilà, donc le site c'est arnauddelattre.wixsite.com.
C'est ça. Hein,
avec celui de votre éditeur, lespresses littéraires.com, sans oublier les inévitables réseaux sociaux. Le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 1er mai 2025, sera l'autrice burgienne de cœur et francilienne d'adoption Anouk Lezic. Elle présentera son deuxième livre, Copeaux de bois, carnet d'une apprentie bûcheronne, paru le 17 août 2023 aux éditions du Penseur. Arnaud, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier.
Merci beaucoup.
Hein bonne séance dédicace.
Merci.
Et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt sur Radio B.
À bientôt.
Merci.
Étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la Bible.